au pieux et heureux empereur César Flavius Constantin le Grand, Auguste, parce que, sous l'inspiration de la divinité et par grandeur d'esprit, avec son armée et de justes armes, en un seul coup décisif, il a vengé l'État sur le tyran et toute sa faction, le Sénat et le peuple romain dédient cet arc en signe de son triomphe. Dédicace de l'arc de Constantin à Rome en l'an 315.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
L'empereur Constantin est un empereur extrêmement important, à la fois dans l'histoire du monde romain et dans l'histoire du christianisme. En mars 313, avec son collègue impérial Licinius Auguste, il avait réussi à donner une loi, l'édit de Milan, qui permettait finalement de reconnaître le christianisme comme religio licita, c'est-à-dire religion autorisée. Lui-même, sans doute d'ailleurs, était progressivement devenu chrétien, et donc il a été considéré comme le premier souverain de l'empereur de l'Empire chrétien. D'autre part, c'est aussi un homme qui a compté parce qu'il a déplacé la capitale impériale de Rome vers Constantinople. Et en 330, cette dernière ville va devenir la capitale de l'Empire, même si, en vrai dire, après 395, d'autres capitales impériales apparaîtront. Mais ce que je voudrais évoquer aujourd'hui dans les fenêtres de l'histoire, c'est tout de même que, même si l'empereur déplace la capitale à Constantinople, il ne va pas négliger la ville de Rome. Et effectivement, il est presque surprenant que, abandonnant Rome, il a voulu quand même l'honorer, je dirais presque la choyer par une couverture édilitaire et des monuments qui vont en faire une capitale absolument extraordinaire. Elle l'était déjà, mais ce statut est tout de même confirmé. Qu'a construit Constantin à Rome? D'abord, il a fini un travail que Maxence, celui qui est le mauvais empereur, dénoncé dans la dédicace que je vous ai lue tout à l'heure, eh bien, il a terminé la basilique que Maxence avait commencée au début des années 310. Et aujourd'hui, sur le forum, se dressent les restes imposants de la basilique de Maxence Constantin, commencée par l'un, terminée par l'autre. Dans cette basilique, Maxence voulait se magnifier en adepte du soleil. Et par une ouverture de la basilique, la statue de l'empereur était éclairée lorsque le soleil apparaissait au-dessus du Colisée à l'est. Et véritablement, cette représentation de l'empereur a été modifiée par Constantin, puisque s'il a gardé l'idée d'une statue impériale, eh bien, il s'est fait lui-même représenter, sans être adepte du soleil, bien sûr, mais en même temps, vous pouvez encore observer aujourd'hui l'immensité de la statue de Constantin, puisqu'elle a été édifiée à nouveau, un facsimilé, si j'ose dire, sur la colline du Capitole. Et elle faisait plusieurs mètres dans la niche de la basilique de Maxence Constantin. Autre élément, c'est qu'il a fallu marquer, comme d'autres empereurs avant lui, la victoire qu'il avait eue sur le pont Milvius contre Maxence le 28 octobre 312. Et c'est pour cela qu'il fait édifier un arc à trois arches. Cet arc de Constantin que l'on peut encore admirer aujourd'hui en bordure du Colisée, entre finalement le Palatin, l'entrée du Forum et l'amphithéâtre du Colisée. Cet arc de triomphe est le dernier qui a été édifié à Rome. Il est encore visible et d'ailleurs il est proche de l'arc de Titus, qui lui avait été édifié en 81 pour rappeler le triomphe de Titus sur les Juifs révoltés et la prise de Jérusalem à l'été 70. Et puis, il n'est pas sans rappeler non plus, de l'autre côté du forum, l'arc de Septime Sévère qui se compose de la même manière et lui avait été fait pour célébrer les 10 ans de règne de l'empereur en 203. Mais ce qui est marquant dans la politique édilitaire de l'empereur Constantin, c'est qu'il a voulu magnifier l'Église et le christianisme au travers de quelques grandes basiliques. Il n'est pas question, bien sûr, d'être exhaustif en matière de construction édilitaire de Constantin. Mais tout de même, il y a quelques monuments qui retiennent l'attention. D'abord, la cathédrale de Rome, Saint-Jean de Latran. À l'origine, cette zone de Saint-Jean de Latran appartenait à une riche famille sénatoriale, les Lateranii. Mais le terrain avait été confisqué par Néron, était devenu terre impériale, et on y avait d'ailleurs installé un bataillon de cavaliers impériaux qui appartenait à la garde prétorienne. Quand la garde prétorienne a été dissoute par l'empereur Constantin, eh bien, l'empereur a décidé de donner le terrain à l'église, et on a édifié la première basilique Saint-Jean de Latran avec le baptistère. Alors bien sûr, quand vous visitez aujourd'hui Saint-Jean de Latran, il ne reste pas grand-chose de la construction constantinienne, parce que la basilique a été profondément remaniée à la fin du Moyen-Âge, à l'époque baroque, avec en particulier le plafond à caissons, sans compter le XIXe siècle, qui a réaménagé également les transepts. Mais nous sommes dans une œuvre qui est constantinienne, à proximité de la grande muraille d'Aurélien qui, sur 19 kilomètres, fait le tour de la ville pour la protéger. Le baptistère, lui, a été transformé à l'intérieur indéniablement, en particulier au XVIe siècle, mais sa partie extérieure conserve tout de même l'esprit du IVe siècle. Autre bâtiment qui a été édifié par Constantin, même s'il a été transformé par la suite, c'est la basilique Saint-Paul hors les murs. Hors les murs parce que justement, elle est en dehors des murs d'Aurélien que j'évoquais il y a quelques instants. La basilique est construite sur la tombe de l'apôtre Paul et nous avons là vraiment la conservation d'un plan constantinien, même si l'église a été réorientée et agrandie à partir du 5e siècle et que l'atrium que nous parcourons aujourd'hui pour y entrer, est en fait un ajout très très tardif du XXe siècle, puisque c'est en 1928 que l'atrium actuel avec la colonnade a été inauguré. Cette basilique Saint-Paul est au demeurant extrêmement intéressante parce qu'elle vous permet de clairement imaginer ce que pouvaient être les grandes basiliques paléochrétiennes des 4e et 5e siècles, car l'incendie de 1823 qui avait ravagé une partie de l'édifice, eh bien, a nécessité bien sûr des réparations et des restaurations, mais on a décidé de conserver le plan d'origine. Et puis il y a une autre basilique qui évidemment doit beaucoup à Constantin, c'est la basilique Saint-Pierre de Rome sur la tombe de l'apôtre Pierre. Cette construction qui débute dans les années 320 est majeur pour l'histoire de l'art chrétien et l'histoire de Rome. Le plan est basilical, c'est-à-dire avec un plan fond à caissons, une nef centrale, des nefs latérales, comme dans les basiliques qui n'avaient rien de religieuse et qui se trouvaient sur le forum romain, par exemple. Mais avant d'entrer dans la basilique, Constantin avait fait édifier un atrium avec une fontaine, et cette fontaine était décorée d'une vaste pigne de pin que vous pouvez admirer aujourd'hui dans une des cours des musées du Vatican. D'autre part, il y avait également une loggia d'où le pape, l'évêque de Rome, pouvait donner sa bénédiction et un escalier qui permettait de l'atteindre. D'autre part, il faut bien voir que cette basilique constantinienne a été pendant 1000 ans un des centres extrêmement importants de la chrétienté. Et cette œuvre de Constantin, vous n'en voyez maintenant que quelques résidus dans la crypte pontificale en dessous de l'actuelle basilique, où il y a quelques restes de colonnes. Effectivement, un pape du début du XIIe siècle, qui est resté célèbre parce qu'il a beaucoup compté dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la papauté, Jules II, élu en 1503, a décidé au début de son pontificat de raser la basilique de Constantin, et le 18 avril 1506, il posait la première pierre de l'actuelle basilique Saint-Pierre.